Fred Film Radio, Cinéma du Réel, Paris, France.
Vous êtes sur Fred Film Radio, Bénédicte Pro, en direct du Festival Cinéma du Réel. Aujourd'hui avec Dieudo Amadi qui est présente en compétition internationale, examen d'État. Bonjour Dieudo.
Bonjour.
Alors, après Atalaku qui parlait de la campagne présidentielle au Congo, votre nouveau film, Examen d'État, se passe à Kisangani. Et les protagonistes de ce film sont des lycéens qui voudraient passer leur examen d'État, qui est l'équivalent congolais du bac. Sauf qu'ils n'ont pas de quoi payer la prime du professeur qui est nécessaire. Et même si les professeurs étaient en grève toute l'année et qu'ils n'ont donc pas délivré les cours nécessaires à passer cet examen, même si l'école est inondée et que ce sont les élèves eux-mêmes qui doivent la nettoyer, il faut quand même qu'ils payent. Et comme ils n'ont pas les moyens, ils décident de s'organiser tout seuls pour passer cet examen. Alors, comment vous avez eu vent de cette entreprise, de ces lycéens?
Merci pour la question. C'est que moi-même, j'ai été lycéen dans cette même ville parce que Kisangani, c'est ma ville natale. C'est la ville où je suis né et grandi. Et je connaissais un peu les pratiques des élèves en terminale. C'est que les mêmes difficultés qu'on voit dans le film, je les ai rencontrées peut-être à des proportions différentes, mais c'était quasiment pareil. Et en fait, quand j'ai décidé de faire un film, je savais plus ou moins ce qui allait se passer. Après, ça m'a aidé à pouvoir trouver des personnages et un profil que je voulais en fait suivre. C'est dans ce sens que je savais exactement que il y aura des problèmes de l'argent parce qu'ils n'ont pas de moyens, ces élèves, à payer les professeurs et qu'ils vont devoir se débrouiller. Mais après, je ne savais pas, par contre, qu'ils vont trouver une maison ou soit ils vont arriver à... Ou, je sais pas, en fait, leur organisation, c'est ça qui m'était encore caché. Et du coup, j'ai découvert un peu comme avec le spectateur, quand il va voir le film, il pourra le découvrir aussi.
Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que cette situation se présente souvent, mais que vous avez saisi quelque chose d'assez rare.
Voilà, d'assez exceptionnel parce que ces personnages, c'est vrai qu'ils connaissent quasiment la même chose que moi ou les gens de ma génération, mais leur façon, leur sens de s'organiser et le réflexe qu'ils ont, en fait, ça c'était assez exceptionnel parce que nous, à notre époque, c'était pas comme ça s'était passé et du coup, c'était bien en fait de faire découvrir, de montrer leur courage et leur ténacité par rapport à cela.
Et oui, surtout qu'ils sont complètement abandonnés, non seulement de l'école et de l'État, parce que cet examen d'État, mais où est-il l'État pendant tout le début du film? Enfin, les profs, en tout cas, n'ont pas du tout de solidarité vis-à-vis d'eux. Donc, ils sont. Alors, les familles ne sont pas présentes. À la limite, ils veulent passer leur examen pour aider leur famille plutôt. Donc, ils sont abandonnés de tout et ils essayent d'avoir recours à des marabouts. Ils ont recours à un prêtre qui bénit leur stylo. Ils essayent vraiment de s'appuyer sur quelque chose, mais ils sont toujours tout seuls tout au long du film.
C'est exactement ça la question du film, en fait, parce que l'intention c'était de montrer comment c'était possible à des jeunes lycéens de réussir un examen aussi important que l'examen d'État sans l'école, sans l'appui de l'école, des enseignants et de leurs parents aussi. Parce qu'en fait, il y a comme un cercle vicieux dans le système d'éducation au Congo. Et, les écoles publiques sont payantes. Ça veut dire que c'est les parents d'élèves qui payent directement les salaires des professeurs. Et maintenant, ces mêmes parents sont la plupart du temps impayés, sous-payés parce qu'ils sont fonctionnaires de l'État ou carrément chômeurs et donc sans aucun revenu. Et du coup, ces élèves se retrouvent entre le marteau et l'enclume en quelque sorte. Du coup, ils ne peuvent pas s'appuyer sur leurs parents qui sont pauvres, mais ils doivent se confronter contre le courroux en quelque sorte de leur professeurs qui eux aussi ont besoin de vivre. Ils ont des enfants qui doivent nourrir et tout par leur métier et du coup ils se montrent très très durs envers les élèves. Et les élèves en fait, ils se trouvent comme ça perdus entre les deux et à leur manière parce que il faut réussir quand même cet examen, c'est très très important pour tous les jeunes. Alors du coup à leur manière, ils essayent de faire de tout leur possible afin de réussir.
En effet, ils ont donc recours à plusieurs instances. Donc il y a l'école, mais il y a aussi donc les fameux marabouts, la religion, beaucoup de superstitions là-dedans. Et on se trouve à chaque fois face à des discours assez monolithiques qui tiennent de l'esbrouf, qui sont un peu du mensonge théâtralisé. Et donc je me demandais comment ils avaient accepté que vous filmiez ça. Par exemple, que vous entriez notamment dans cette église au moment où il y a cet exorcisme de l'élève.
Oui, parce que pour un public occidental, par exemple, ça paraît assez étrange, une séquence comme celle-là, mais c'est vraiment ordinaire, quasiment banal au Congo. C'est justement pour ça qu'il n'avait aucun mal à me permettre, avec ma caméra, d'assister et de filmer ces moments-là. Parce que il faut dire que les Congolais en général, mais ces jeunes en particulier, par rapport à l'abandon de l'État que vous évoquiez tout à l'heure, ben ils sont amenés à croire à n'importe quoi, en fait, à s'appuyer sur n'importe quelle croyance pourvu que ça leur permette de tenir et d'avancer. Et justement, les églises et les féticheurs prennent cette place-là parce que en fait, Dieu est capable de tout. En fait, c'est ce qu'on entend souvent dans les rues de Kinshasa ou de Kisangani, c'est que l'État ne peut pas faire, c'est que les parents ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire. Et tout le monde, en fait, tout le monde est bercé un peu dans cette croyance, et du coup, ça devient tout à fait normal, ordinaire, banal, que de croire que même si on n'a pas étudié pendant toute une année, le fait qu'un prêtre puisse bénir ton stylo, tu vas pouvoir réussir quand même ton examen. Et je n'ai eu aucun mal à rendre cela parce que c'est en fait ordinaire.
Il y a aussi une autre scène qui tenait du simulacre pour moi, que j'ai trouvé étonnante, c'est la scène du coffre-fort, parce qu'il faut quand même savoir que le dernier recours que trouvent ces jeunes, finalement le seul recours qu'ils trouvent, c'est leur père. Personne ne les aide, ce sont d'autres élèves qui leur expliquent qu'ils ne peuvent avoir leur examen que s'ils trichent. Et pourtant, il y a cette scène très solennelle où les autorités arrivent et ouvrent un coffre-fort qui a un code où sont renfermés les papiers de l'examen.
C'est une scène très importante pour moi, parce que ça me permettait de montrer justement ces côtés assez, je dirais, bizarres qu'ont les autorités vis-à-vis de cet examen. Parce qu'il faut rappeler, par exemple, que cet examen, c'est le plus important examen organisé par l'État au Congo. Du coup, il y a énormément de moyens qui sont mobilisés pour son déroulement. Il y a des millions, en fait, qui sont dépensés pour pouvoir l'organiser de façon synchrone dans toute l'étendue du territoire du pays. Il faut rappeler quand même, le Congo, c'est quand même 4 fois la France. Et sans infrastructure, organiser un tel examen dans tout le pays, dans tous les recoins du pays, au même moment, ça demande énormément de moyens. Et tous les ans, les autorités s'affairent à ce que ça soit possible. Et du coup, il y a tellement de moyens qui sont mobilisés à se faire. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on remarque, en fait, c'est au dépens de la formation, pour moi, de l'essentiel, en fait, finalement. Parce qu'on on accorde énormément de l'importance à ces 4 jours de passation d'examen, à cet examen qui, finalement, devrait sanctionner normalement une formation de toute une année. Et on met énormément d'énergie et de moyens là-dessus, et on oublie l'essentiel qui est la formation de ces mêmes élèves. Parce que comment expliquer que les enseignants qui s'occupent de la formation de ces enfants ne soient pas payés, que ces élèves étudient quasiment à même le sol, parce qu'il y a pas mal d'écoles comme ça au Congo, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de craie ni des tableaux et tout, et que le jour de l'examen, on voit toutes les autorités se mobiliser, venir son alignement pour montrer que en fait l'examen va bien se dérouler, ils ont tenu leur engagement politique et tout. Je trouvais ça absurde. Et cette scène, en fait, pour moi, ça traduisait cela.
Et il y a les SMS qui sont très bien organisés, c'est-à-dire que les résultats de l'examen, tout ça, c'est parfaitement organisé.
Très très bien organisé, parce que encore une fois, c'est encore un autre business de l'État, parce qu'il y a une grande société de communication qui a remporté ce marché, comme quoi après les résultats, même avant que l'État puisse annoncer les résultats, ces sociétés de télécoms pouvaient via des SMS communiquer les résultats aux élèves. Et tout ça, c'est super bien organisé, très très bien maîtrisé, et l'organisation jusqu'aux résultats, tout est bien maîtrisé, sauf justement la formation de ces enfants. Et ça qui est dommage.
Comment avez-vous identifié le personnage de Joël, qui est porteur au marché, qui est orphelin et qu'on suit un tout petit peu plus particulièrement?
En fait, je l'ai rencontré pendant le repérage. Comme ça, de façon assez un peu par hasard, j'ai posé des questions à plusieurs élèves de l'école que j'avais choisie, et lui, il m'a quand même tout de suite intéressé par rapport à ce qu'il me racontait de sa vie. C'est que quand il me disait qu'il n'avait pas les droits à l'échec parce que ça signifierait l'abandon total. Pour lui, ça signifierait par exemple que sa tante, par exemple, chez qui il était en train, il vivait, ne pouvait plus prendre soin de lui ou s'en occuper, alors qu'il avait déjà perdu ses parents, et que il était prêt à tout pour pouvoir réussir cet examen. Tout de suite, j'ai senti qu'en fait, avec lui, il pourrait se passer des choses, parce qu'il était un peu plus déterminé que d'autres, que la moyenne, vu sa condition ou son histoire personnelle. Comme ça, il m'a intéressé, je lui ai proposé de le suivre, et il n'a pas eu de mal à m'accorder son accord et à pouvoir vivre devant ma caméra.
C'est vrai que c'est un personnage qui est attachant et qui rend le film, on ne dévoilera pas ce qui lui arrive, mais en tout cas, qui rend le film particulièrement touchant. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, Dieudo.
Au revoir.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.